vraiment, mais vraiment, mais vraiment, j'avais de la chance. J'ai toujours de la chance, mais j'avais de la chance depuis toujours parce que je suis née dans la magie. J'étais entourée de la magie. 1980. Cette magie a duré jusqu'au 1980. C'est la date d'un coup d'État. Troisième coup d'État en Turquie, un coup d'État terrible. Mais avant, notre maison, notre appartement, n'était pas très grande. Mais c'était comme une grande palais pour moi parce qu'il y avait trop de monde. Et il y avait toujours du monde, il y avait toujours du monde. Il y avait toujours des musiciens, il y avait toujours des conteurs, il y avait toujours des militants. Et j'ai une sœur, 2 ans plus jeune que moi, nous avons grandi. Il y avait tout le temps des personnes, on discutait, on chantait. Et nous avions une cuisine, pas très grande, mais pour nous c'était très grand. Parce que tout le monde cuisinait. Avec les cuisines, il y avait les chansons. Et il y avait des poésies, on parlait, etc. Moi, je croyais que la révolution, parce que c'était des révolutionnaires, la révolution, c'est la poésie. C'est la révolution, c'est la magie. Et beaucoup d'amour. Parce que tout le monde se touchait, c'est pas comme la France. On se touche, on se caresse. Et tu dis que, voilà, c'est la magie. Et mon père, c'était un conteur. À cette époque, la télévision, il était sorti. Il ne voulait pas qu'on regarde beaucoup à la télévision. Et quand il n'y avait pas du monde, il nous amenait. Ma mère, elle travaillait, elle était très active. Et lui, il était actif aussi, il était avocat, très très actif. Mais quand même, il trouvait plus de temps pour nous raconter des contes. Et donc, moi, je croyais que ces contes, je croyais tout ce qu'il disait. Donc, moi, je croyais que ces contes étaient vrais. Et ma sœur aussi. Et quand il y avait une ambiance un peu magique, que tout le monde s'aimait, il y avait toujours les créations et les discussions, et même les enfants en comprenaient, à notre manière. Et voilà la réalité. C'est le conte, mais aussi il y a la réalité. Et 1980, en Turquie, il y a eu une coup d'État, le troisième coup d'État, mais le plus important, qui a emprisonné 1 million de personnes, qui a tué des milliers de personnes dans un mois, des centaines de milliers d'exilés, et parce qu'il y avait une mobilisation sociale très très importante. À cette époque, il y avait des coups d'État à l'Amérique latine partout. Et en Turquie, c'était un coup d'État grande ampleur qui a traumatisé même 3 générations après. Pour nous, pour ma sœur et moi, ce coup d'État signifie que ils nous ont pris notre compte. Ils ont arrêté notre compte. Et tout d'un coup, toutes les personnes qui venaient à la maison, les chanteurs, etc., ils ne sont plus là et ils sont venus le premier jour prendre mon père. Il est resté 5 ans en prison. Et l'ambiance a changé. Ma mère a commencé à s'organiser avec les réseaux de solidarité avec les prisonniers. Donc il y avait des réunions à la maison, mais pas de chansons parce qu'il y avait toujours des informations sur les morts, sur les tortures, etc. Donc il y avait un air lourd à la maison. Et dans cet air lourd, on discutait beaucoup, on regardait à la télé, on voyait le dictateur qui parlait. Je savais que c'était faux, ce qu'il disait. Mais je sortais, j'allais à l'école, j'avais 9 ans. Et je commençais à voir comment les gens se transformaient. C'était très, très traumatisant pour moi. Même plus que perdre mon père, qu'il est allé en prison. Parce que juste avant, il y avait un air révolutionnaire. Tout le monde chantait. C'était une période qui avait une effervescence assez vif. Et tout d'un coup, je commençais à voir même mon professeur qui venait à la pharmacie de ma mère toujours à discuter. Elle a eu un discours comme le dictateur. Tout le monde a commencé à changer. Et je me suis dit, comment c'est possible? J'étais petite et je ne croyais pas, c'était comment tout le monde change d'une façon ou d'une autre, mais ne disent rien. Et un jour, ma mère m'a dit, nous a dit, je vous amène un spectacle. Elle nous amenait souvent. C'est important, j'ai de la chance que je vous dis, parce que même si après ce traumatisme, la poésie existait toujours, les chansons, après ils ont recommencé devant les prisons, entre nous. Donc il y avait toujours des différentes formes d'expression qui nous entouraient. Et aussi, malgré toutes les difficultés, elle nous amenait à l'opéra, au concert, et on est allé à un spectacle. Je ne connaissais pas Ionesco. Donc c'était le rhinocéros. Je me souviens, on s'est assis et le spectacle m'a, comment dire en français, m'a traumatisé, ou il m'a mis à jour mon traumatisme. Jusqu'à la fin du spectacle, donc tout le monde devient un rhinocéros, pas besoin de raconter. Il y a seulement Béranger qui reste, même son fiancé Daisy devient un rhinocéros. Et moi, je me suis enfoncée dans mon fauteuil. Je ne pouvais pas bouger parce que Béranger, c'était moi. Et à la fin, il a crié que je vais rester. Nanana. Il a fait un discours de résistance. Mais même son discours de résistance ne m'a pas beaucoup touchée. Et je me suis dit, voilà, comment je vais faire? Et mon père, on était très potes, très amis, on partageait beaucoup de choses, même 9 ans, on n'a pas beaucoup d'histoires d'amour, mais j'avais quand même des petites choses. Donc je lui écrivais toutes les choses. Et au bout de, quand j'avais 10 ans, au bout d'un an, 1 an et demi, j'ai eu mes règles un peu tôt, 11 ans, une chose comme ça. Donc j'écrivais tout. Et il m'a dit un jour, putain, tu m'écris tout, c'était comme mon journal intime. Il faut pas que tu le fasses comme ça, parce que les soldats lisent ce que tu lis. Donc ils apprennent tout sur toi. Et c'est pas bien ça. Tu n'en vois pas qu'à moi. Donc il faut que tu trouves une façon de faire que je vais comprendre, mais eux, ils ne vont pas comprendre. Alors c'était très dur pour moi, parce que j'étais petite quand même. Je lisais beaucoup, nanana, mais. Et c'est là. Mais j'avais beaucoup de. C'était sûr que je devrais continuer à parler avec mon père. C'était sûr que je devais dépasser les murs pour faire entendre ma voix à lui. Et là, j'ai appris, c'est un exercice qui n'a pas marché tout de suite, mais c'est un exercice qui m'a appris la création de paroles en écriture. Et je n'ai jamais lâché ça. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vécu cette expérience de création, c'est devenu mon expression un peu initiale. Et parce que j'ai commencé à voir que je peux l'utiliser, cette expression, pas seulement pour faire entendre quelqu'un ma voix, mais pour faire entendre ma voix à des personnes qui sont devenues sourdes à cause des télés, qui sont devenus sourds à cause des grands, grands bruits. Donc, comment faire passer la parole? Comment faire exprimer quelque chose qui n'est pas visible? Et donc, c'était un exercice qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé petit à petit à voir que autour de moi, dans mon pays, on le faisait depuis longtemps. C'est différent, la Turquie, ou surtout les Kurdes, différent de la France. Nous, le roman a commencé très tard, fin 19e siècle. La littérature orale était très importante. Et pour les Kurdes, par exemple, il y avait beaucoup d'interdictions. Mais grâce aux poésies et grâce aux chansons, la culture a continué. Et les messages continuaient. Et je m'attends avec des nouveaux lunettes, les lunettes, avec les nouvelles lunettes. Avec les nouvelles lunettes, je regarde en arrière, je me dis, mais il y avait tout le temps des chansons, on chantait sans intérêt. Parce que c'était, au lieu d'écrire, et on écrivait aussi, mais c'était plutôt les chansons qui nous emportaient. Donc, j'ai commencé à comprendre que dans le contexte où j'ai grandi, il y avait beaucoup d'impossibilités, entre guillemets, beaucoup de difficultés, mais il y avait toujours des créations artistiques, mais des créations militantes aussi, des créations politiques aussi, même des créations sociales, sexuelles, dans la vie quotidienne aussi. Et quand tu commences à pratiquer cette création, tu trouves plein d'amis et tu te nourris d'autres formes de création. Et ça nous permet, je pense, de ne pas entrer dans le rang. Parce que l'histoire du rhinocéros, c'est-à-dire le processus de rhinocérosisation, c'est quelque chose que tu t'obéis au pouvoir de mille façons. Tu dis, c'est pas bien, mais tu le fais, ou tu ne réagis pas, ou tu fermes tes yeux. Donc il y a mille façons de se mettre dans le rang. Et moi, je m'avais promis quand j'étais petite, je ne veux pas me mettre dans le rang. Mais pour rien du tout, je ne veux pas le faire. Et j'ai compris que grâce à cette lettre, après grâce à d'autres expériences, que seulement en créant que je ne peux pas être dans le rang, c'est pas seulement en refusant. Par exemple, après c'est moi qui ai vécu cette histoire, que tout le monde connaît, pas besoin d'expliquer, mais quand j'ai fait cette recherche sur les Kurdes, quand on m'a emprisonné sur les mouvements kurdes, quand on m'a emprisonné, quand on me demandait les personnes que j'ai interviewées, et quand j'ai résisté, et ils étaient en train de me torturer. Et moi, j'ai résisté. Par hasard, j'ai résisté. Vraiment, la résistance est un hasard. Je disais toujours une minute, une minute, une minute. À la fin, j'ai résisté. Après, on m'a amené en prison, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais détruite et je me disais qu'est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Tu résistes, mais c'est lui qui détermine qu'est-ce que tu vas faire. Moi, quand je vais sortir de la prison ou même en prison, je vais faire en sorte que lui ne veut pas me déterminer mon action. Il ne veut pas me déterminer. Donc, je dois toujours imaginer. Donc, j'ai rappelé beaucoup les contes que mon père racontait. Après, j'ai oublié de dire que quand mon père était en prison, c'est moi qui ai continué à raconter les contes à ma sœur. Après, je suis devenue conteuse, j'ai écrit plein de livres sur les contes. Et c'est toujours cette magie, cette capacité de créer, d'imaginer dans tous les possibles, de ne pas limiter avec la réalité qu'on t'impose. C'est cette histoire de magie, de pouvoir créer des histoires, me rendait fort aussi. Et je me suis dit, quand j'étais en prison après les tortures, il faut que je réussisse à créer mon compte à moi. Si je crée mon compte à moi, et je pourrais, personne ne peut mettre dans le rang. Donc il faut que ma vie soit très poétique. Et j'écris des poèmes, j'écris d'autres choses, j'écris plein de choses, mais ma vie aussi. Je vais écrire ma vie aussi. Et si j'arrive à vivre une vie poétique, il ne sera pas dans le rang. Donc c'était ça que j'avais trouvé. Et j'ai oublié de dire que cette époque, les poètes étaient interdits. Nazım Hikmet, c'est le grand poète turc, mais pas seulement. Aragon était interdit en Turquie. C'est comme le livre de George Orwell, 1984. Celui qui a écrit la liberté, le poète qui a écrit la liberté, j'écris ton nom. Et même ce poème, Éloire, était interdit. Et moi, je me souviens, quand j'étais au collège, j'écrivais ces poésies et je mettais sur les rues, sur les murs. Donc, la résistance devient un peu, pas poétique, mais tu résistes avec, en diffusant la poésie. Donc, c'était assez logique pour moi de créer ma poésie, parce que c'était la poésie, c'était la résistance aussi un peu. Voilà. Et cet apprentissage, je crois, m'a servi dans toute ma vie.
Alors comment est venue cette idée, ce projet de faire naître à 24 ans, en 1995, l'atelier des artistes de la rue, où vous avez réuni des enfants, des adolescents, des jeunes gens vivant dans la rue, avec cette idée fondamentale que l'art, je vous cite, est capable de tout transformer?
Oui. Alors là, je vous dis, c'était pas un projet. C'était développé vraiment naturellement. Et moi, depuis le lycée, j'avais des amis qui dormaient dans les rues, qui vivaient dans les rues. Et quand tu entres dans ce circuit, tu connais plein de monde. Et ma vie s'était transformée un peu. En même temps, j'avais des engagements politiques avec les gens comme moi. Mais comme j'avais une autre vie avec d'autres personnes, j'étais un peu schizophrénique. Je ne pouvais pas dialoguer les deux. Et petit à petit, cette vie m'a attirée de plus en plus. Et j'ai vu quelque chose avec mon bagage, mes connaissances, disons, qui vient de notre milieu. J'ai commencé à voir que comment la police, les associations, etc., ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils veulent avec ces gens. Et ces gens les résistent, mais eux non plus, ils ne réussissent pas. Donc, c'est le malheur total dans les rues. Et après avoir passé 5 ans, 6 ans, mais vraiment des amitiés, et je n'ai jamais fait une recherche sur les rues, parce que les enfants ne voulaient pas qu'on fasse des recherches sur eux. Mais c'était vraiment des liens amicaux. Et après, il y a eu beaucoup des enfants qui étaient morts, qui étaient tués dans les rues aussi. Et après, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je peux apporter? À ce temps-là, je suis allée à Paris pour d'autres raisons. Et j'ai connu des squats. Mais ça m'a révélé. Mais j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi nous ne savions pas ça? Est-ce que nous pouvons faire la même chose? Donc, j'étais allée pour une autre chose. Il y avait à Paris, dans un quartier, une squat. Même, j'ai vu une petite histoire d'amour avec un peintre qui vivait là-bas. Mais ça durait 4-5 jours. Mais ça m'a permis de voir ce monde un peu de l'intérieur. Comment c'est possible, etc. Donc, je cours à Istanbul. Je dis, alors, les amis, j'ai des choses, j'ai des projets. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, tout le monde me regarde comme si je... Et petit à petit, on commence à rêver ensemble. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Ils nous disent comme ça, mais nous avons aussi des choses à dire. Comment on peut faire, etc. Et à ce moment-là, il y avait le plus petit qui était dans les rues, je crois, il avait 9 ans et demi, etc. Et il jouait beaucoup dans les poubelles, il trouvait des choses. Et il nous a dit, tu sais, Pnar, on dit pas Pnar, on dit Pnarabla, c'est-à-dire sœur Pnar. Chez nous, on dit ou oncle ou sœur, même les gens que tu ne connais pas, tu utilises beaucoup. Il m'a dit Pnarabla, tu sais. Et pour vraiment, pour que les gens, pour que, il parle toujours de notre intégration, il parle toujours de ils vont nous gagner, etc. Mais c'est pas facile. Par exemple, ces poubelles, tu ne peux pas les regagner tout de suite, il faut travailler là-dessus, il faut faire quelque chose. Mais il a dit avec une façon très naturelle. Et on ne peut pas gagner très vite de les choses que tu as jetées comme ça. Il faut faire un travail. Ah, j'ai dit oui, donc le squat, le travail, etc. Donc, on a commencé à rêver plus concrètement pour notre projet. Et nous avons occupé un bâtiment à Taksim. Et là, j'ai pu mobiliser tous mes amis, tous mes collègues déjà artistes. J'étais à l'université, je faisais la sociologie, mais c'était une université de l'art aussi. Donc, ils ont tous venu amener leurs connaissances. Ils nous ont appris, mais ils n'ont pas géré rien du tout. Ils nous ont juste partagé leurs connaissances. Et l'université nous a donné leur four, parce qu'on travaillait sur la terre, et on utilisait leur four. Et tout d'un coup, après, il y avait des gens de spectacle qui sont venus. On a commencé à faire un spectacle de rue. Et 3 ans après, on a commencé à faire un journal de rue qui s'appelle L'Invité. L'Invité parce que il y avait beaucoup de Roms dans notre groupe. Ils disaient qu'avant, il y avait des invités. Maintenant, avec la télévision, il n'y a plus d'invités. On n'invite personne, etc. Donc, on a fait un journal 4 pages. On vendait 5000 exemplaires dans les rues. On n'a jamais eu une subvention, on n'a jamais eu aucune... Seulement tout le monde nous amenait des choses. Et comme c'était à Taksim, c'est vraiment au cœur de Istanbul, comme Place Masséna, je ne sais pas comment dire. Et il y avait beaucoup de commerce et tout le monde venait. Et on est devenu un truc très populaire. Et tout le monde nous amenait, par exemple, ils ont acheté... Il y avait un petit restaurant... quand ils finissent, ils nous amenaient tous les repas, donc tout le monde amenait des choses. Il n'y avait pas d'argent, mais il y avait beaucoup de choses qui circulaient autour de ça. Et dans 2 ans, 3 ans, je crois, on est devenu un endroit très central à Istanbul, surtout avec notre groupe de théâtre, parce qu'on nous invitait partout. Et ce n'était pas habituel dans ces groupes de théâtre de voir... Les transsexuels, les enfants, etc., qui jouent quelque chose. Et on a créé un lien très fort. Ça nous a transformés. Ça m'a transformé, moi. Et, parce qu'on a commencé à dialoguer avec des vrais mots. Avant, une transsexuelle, une amie transsexuelle prostituée me disait que... Avant, je parlais, mais avec les mots qu'on me demandait. Les mots de reportage, de télévision. Et j'avais appris par cœur ce que je voulais dire. Même dans la vie quotidienne, je parlais avec cette langue. J'ai trouvé ma langue. Et nous avons commencé à parler avec notre propre langue. Et ça crée des liens très, très forts. Et après, ce rêve est fini. Parce que moi, je suis libertaire, donc je ne crée jamais un espace qui est lié à moi. Je crée toujours qu'il y a une dynamique en dehors de moi. Et petit à petit, et j'allais 3 fois par semaine. Parce que je faisais aussi mes études, donc j'ai commencé à faire un travail sur les mouvements kurdes, sur la guerre en Turquie, etc. Mais j'y allais. Mais quand il y avait des problèmes, on m'appelait, mais j'étais là. Plutôt, je participais à la création. Je n'étais pas dans l'administration. Et un jour, ils m'ont arrêté, les polices. Et quand ils m'ont demandé les gens, des personnes que j'ai interviewées, et quand j'ai commencé à résister, quand la torture n'a pas marché, ils ont décidé de me faire la torture avec cet atelier de rue. Ils m'ont dit qu'on va aller là-bas, on va détruire tout. Et on va amener toutes ces personnes ici, on va les torturer. Et c'était la chose plus dure pour moi. Même je peux vous dire que quand ils m'ont arrêté la première fois dans les rues, j'ai cru que c'était des proxénètes, le mafia, parce qu'il y avait beaucoup de prostituées qui venaient travailler avec nous, et eux, ils n'étaient pas très contents. J'ai cru que ce n'est pas les polices, c'est les proxénètes. Et après, j'ai compris que c'est la police. Donc, à la fin, ils sont allés à ce lieu, ils ont détruit tout, et toutes les personnes qui étaient là sont fuies. Sont fuies parce que c'était des gens qui ont toujours des difficultés avec la police, etc. Ils ont tous fui. Donc, ce projet, il est tombé vraiment, il est cassé en 1000 morceaux. Et là, j'étais en prison, donc c'était la plus dure chose qui pouvait m'arriver parce que... Et 2 jours après, il y avait quelqu'un qui est venu me voir de cet atelier. Il m'a dit, tu sais, Pınar abla, nous croyons comme des dieux. Nous étions devenus des dieux parce que nous avions vraiment créé une ambiance de création. Et on était des dieux. Et j'ai dit, mais on va continuer à être dieux. Maintenant, c'est une autre étape. Et lui, il est allé leur dire qu'on va continuer à être Dieu. Donc, ils ont réfléchi. Ils sont tous venus devant la prison. C'était incroyable. Ils ont resté 2 ans et demi. Quand j'étais en prison, ils n'étaient pas tout le temps là, mais 3 fois par semaine, ils étaient là. Les prostituées, les transsexuels, les chanteurs, parce que ce n'est pas des groupes spécifiques, des personnes qui se retrouvent dans les rues et qui se sont retrouvées dans notre atelier. Et c'est des gens un peu errants, disons. Et là, ils m'ont soutenue. Et bien évidemment, l'université m'a soutenue, les intellectuels m'ont soutenue, mais ils étaient un peu plus timides au début. Parce qu'on m'accusait des choses terribles. Mais comme toutes ces personnes que j'ai touchées, j'ai côtoyées, j'ai travaillé ensemble, ils avaient leur manière de me soutenir était vraiment très fort. Et même les médias, ils ont changé leur discours parce que c'était évident. Et cette création, il s'est tourné pour me. Et ils ont fait des spectacles un peu naturels, mais pour me sauver. Et ça a vraiment créé un miracle. Parce qu'au début, j'étais à la une des journaux comme une terroriste. Et tout d'un coup, tout le monde a commencé à m'aimer. Et c'était assez incroyable. Même après les universités, tout le monde était très engagé. Mais c'est le premier vrai cri, c'était venu des rues. Et après, c'est bizarre de dire ça, mais depuis 21 ans, cet atelier, il est cassé en 1000 morceaux. Et depuis ce jour-là, 80% des personnes qui étaient là, je garde les liens. On est toujours en lien. Maintenant, c'est par Facebook parce que je ne suis pas en Turquie ou par d'autres. Par téléphone. Mais une transsexuelle qui était là, qui était prostituée, elle est devenue une comédienne très connue en Turquie. Elle fait des spectacles toute seule. Il y avait un garçon qui fouillait les poubelles et qui les vendait. Et après, il est devenu un artiste très important dans notre atelier. Mais après, il a ouvert un brocante. Maintenant, à Taksim, il a un brocante. Et son brocante, il y a toujours des thés, des cafés, il y a plein de personnes qui viennent. C'est devenu un endroit de passage et de discussion. Donc, cette envie de créer et d'être dieu ou déesse, je crois qu'il va continuer. Voilà.
Justement, cette expérience de la rue, qui était très urbaine, vous a permis d'assister à l'évolution de la ville d'Istanbul, notamment sur l'urbanisme, dans un processus de gentrification. Et vous avez créé dans la foulée de l'atelier une coopérative d'écologie sociale dont j'écorche le nom, mais qui en français on doute Ajaci. Et en quoi consistait cette coopérative et c'est quoi exactement l'écologie sociale?
L'écologie sociale, c'est une théorie philosophique et politique qui est développée beaucoup par Murray Bookchin, c'est un anarchiste américain et qui a vécu dans les années 70-80. Mais pas que lui, il y a beaucoup d'autres personnes. Les féministes, elles ont beaucoup apporté leur pierre et qui mettent en question toute la civilisation et qui réfléchit sur nos relations avec les autres êtres. Comment nos relations avec les autres êtres aussi légitiment tous les rapports de domination entre nous. Nos relations avec les chiens, avec le lait sur le cou, et comment on colonise toute la nature, et comment c'est légitime qu'ils deviennent nos esclaves. Comment ils vivent leur vie, ils sont dépendants. Et ils n'ont pas de sens. Le sens, c'est nous, même dans les religions, etc. Donc, c'est une philosophie assez large, mais aussi qui réfléchit sur comment nous vivons. Maintenant, quand vous voyagez dans les anciens pays communistes, vous voyez un peu comme des architectures fascistes. Vous ne voyez pas la différence. Donc, ils ont amené l'égalité, peut-être, mais... Et les gens vivent comme dans les poulaillers. Mais dans cette écologie sociale, dans cette philosophie, ils disent que nous devons vivre dans la beauté Et nous devons créer la beauté dans notre vie et nous devons réfléchir aussi comment faire l'équilibre avec les autres êtres. On ne va pas nous mettre au centre de la planète, mais en même temps, il faut réfléchir comment on organise notre vie. C'est-à-dire, pas seulement avec les autres êtres, avec la nature, etc., mais entre nous, est-ce qu'il y a des espaces où les gens se retrouvent? Est-ce qu'il y a des espaces publics? Et où est-ce que les maisons sont très grandes et ça va nous faire couper, etc. Donc c'est une expérience qui réfléchit aussi sur la ville, sur la vie quotidienne, sur comment je fais avec ma chambre.
Et comment ça se concrétisait dans la coopérative que vous avez créée?
Oui, donc... Nous avons déjà, il y avait, quand j'étais, c'était après la prison que j'ai contribué à la création de ateliers, de plateforme écologie sociale. Et quand nous, et Bookchin, il était traduit beaucoup, beaucoup plus avant que la France. Donc il y avait une discussion assez importante. Et on commençait à réfléchir et comment Istanbul change avec une grande vitesse. Et même les endroits où on est. Il détruit les bâtiments, il intervient dans notre vie, à nos habitudes, il tue tout le temps. Et comment on peut faire? Parce que toutes les associations, toutes les organisations luttaient pour un but, pour les femmes, pour les homosexuels, pour une chose, mais on ne s'occupait pas où on vivait. Donc nous avons proposé, c'est notre groupe féministe à Margui qui a proposé aux autres associations, on crée aussi une plateforme qui parle d'où on vit et qui dit des choses sur où on vit. Nous voulons une marché, nous voulons ça, etc. Oui, nous luttons ici, mais nous sommes des habitants de ce lieu. Et nous avons créé cette plateforme d'écologie sociale et qui réunit plein de différents groupes entre eux. Et nous avons décidé de ne pas parler de nos revendications de toutes les organisations, mais de créer des revendications ou des travaux collectifs ou des imaginations collectives sur là où on vit. Et c'était une expérience assez intéressante qui a duré 3-4 ans. Et après, on a arrêté parce que cette plateforme avait joué son rôle parce que nous avions créé d'autres mécanismes. Nous avions créé des espaces qu'on se réunissait. Nous avions créé des coopératifs pour des courts-circuits, disons. Et là, tous ces nouveaux mécanismes que nous avons créés ont rendu obsolète notre plateforme. Et donc, ça s'est continué comme ça. Et en 2013, j'étais en France, et quand il y avait les grandes mobilisations de Place Taksim en Turquie, quand les jeunes, après des millions de personnes, ont mobilisé au Place Taksim pour que 3 arbres restent, parce qu'il y avait une parc là-bas et le gouvernement voulait couper les arbres pour mettre une grand centre commercial. Les gens ont résisté et ils ont fait une petite discours en disant que ce mouvement n'a pas tombé du ciel. Et il y avait les plateformes écologie sociale, il y avait plein de choses. Et nous sommes les fruits de tous ces travaux qui étaient déjà commencés. Donc j'étais trop contente quand j'ai lu tout ça. Voilà, donc dans ces pays-là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'en général, on imagine que dans les contextes très répressifs, on ne fait que réagir. On n'a pas l'opportunité de création. Mais ce n'est pas vrai parce que où j'ai grandi, et pour pouvoir résister, nous avions besoin vraiment de comprendre les choses, d'exprimer les choses de à partir des profondeurs. Je ne sais pas comment dire. Et moi, je nourrissais toujours de la littérature, de la création.
Vous avez parlé tout à l'heure d'un groupe de femmes avec qui vous avez travaillé, notamment sur cette coopérative. Et dans ce groupe de femmes, vous avez souvent défendu l'idée d'un féminisme acrobatique. C'est une idée tout à fait singulière, originale, mais c'est quoi exactement?
Oui, vous savez, dans les contextes répressifs, il y a toujours une convergence, parce que vous êtes obligé, vous ne pouvez pas lutter toute seule, parce que vous êtes obligé, c'est une obligation. Donc, dans ce contexte, les mouvements féministes, kurdes, arméniens, LGBT, gauche, etc., on fait tout le temps des choses ensemble. Et même si on ne s'aime pas beaucoup, même si on critique, et cette convergence fait que, à un moment donné, dans deux ans, dans trois ans, il ne se passe rien. Il n'y a que des cancans qui restent. Mais après, quand ça continue longtemps, il y a des concepts qui voyagent, des expériences qui voyagent, des critiques qui voyagent, et il y a une chose un peu magique aussi, dans toutes les organisations, il y a des conflits internes. Par exemple, les femmes dans le mouvement kurde bougent, les Arméniens dans le mouvement LGBT bougent, et ils disent que non, ça ne va pas, parce qu'on commence à voir qu'il y a d'autres choses. Et cette convergence a fait naître notre groupe Amargi. Amargi, ce n'est pas turc, c'est pas kurde, c'est pas arménien. On a trouvé un mot sumer pour que tout le monde se sente dedans. Sumer, c'est une ancienne civilisation de l'Anatolie, donc, et ça veut dire la liberté. Donc on a dit Amargi, et on commence à discuter. Alors, nous sommes féministes, mais quel féminisme? Parce qu'il y a plein de féminisme. Donc on est anti-militariste, c'est sûr, on est anti-capitaliste, c'est sûr, on est anti-nationaliste, c'est sûr, anti-hétérosexiste, c'est sûr, parce qu'il y avait d'autres groupes éco-féministes, je ne sais pas, anarcho-féministes, anti-militaristes, féministes, mais nous, on était tout. Donc on a dit que donc, ça va être une longue liste. Les féministes anarchistes, je ne sais pas, les anti-militaristes, anti-violentes, j'ai dit, on ne peut pas. Et à la fin, on a dit, c'est bien de dire acrobatique. Donc, on a trouvé le terme acrobatique et tout le monde a adoré. Parce qu'en même temps, pour être tout, il faut faire attention à tout, il faut faire un peu acrobatique. Donc, ça marche très bien. Mais maintenant, je me définis un peu acrobatique. Et je peux vous dire que le féminisme en Turquie a joué beaucoup de rôle pour lutter contre le fascisme, parce qu'elle a mis en question... Elle a rendu impossible, toutes les politiques du système qui voulait aussi contrôler l'ordre social, pas que l'ordre politique. Et les féministes ont montré que l'ordre social est la base de l'ordre politique. Et quand elles ont appris ça à leurs autres camarades dans les autres mouvements, et il y a eu des transformations, d'abord petit, mais après qui sont devenues importantes et qui a créé une sorte de révolution dans l'espace des luttes sociales en Turquie. Nous n'avons pas vécu 68 comme vous. À l'époque de 68, il y avait des guérillas en Turquie, on attendait la révolution demain, après-demain, donc on ne pouvait pas discuter sur la création, sur la liberté, sur les hiérarchies, c'était luxe. Mais juste après coup d'État 80, c'était possible. Et maintenant, je suis loin de la Turquie. Au début, je me sentais vraiment en exil. Mais j'ai redéfini le terme de l'exil. Parce que quand j'étais en Turquie, je disais Adorno, tout ça, je disais que tout le monde est en exil, il n'y a pas de maison, on n'a pas de repères, etc. Mais quand tu es obligé de quitter ton espace, et tu es obligé de... Tu comprends que c'est une autre chose, parce que tu te trouves dans un autre espace où tu n'as pas l'histoire, et tu n'as pas d'interaction, et tu ne connais pas des repères. Et là... C'était très difficile au début parce que je voulais continuer ce féminisme et donc j'ai commencé à chercher des repères. J'ai regardé, il n'y avait pas Belux. Belux est une féministe afro-américaine et qui nous a beaucoup construit en Turquie, et qui disait que on a besoin de féminisme pour tout, les mouvements féministes n'ont pas de priorité parce que toutes les femmes ont d'autres priorités, il ne faut pas chercher de priorité. Elle avait un discours assez important et je peux trouver ça en France, par exemple. Donc j'ai commencé à dire que donc, je dois faire un travail important même pour vraiment m'engager dans le mouvement féministe en France, d'abord, je dois traduire, je dois comprendre le français mieux, mais en plus, je dois traduire mon expérience. Une traduction d'une expérience, c'est quelque chose d'assez difficile, et je dois traduire l'expérience dans mon cerveau pour comprendre ce qui se passe. Et au début, maintenant, ça fait 10 ans que je suis en France, j'avais plus de difficultés, mais maintenant, depuis 2 ans, ou 3 ans, je pense qu'il y a un élan très très important en France et en Europe et dans le monde entier du féminisme, parce qu'il y a une multiplication des groupes et une multiplication des discours, et c'est plus difficile de parler de deux groupes, de deux pôles. Maintenant, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 pôles, et c'est assez, ça devient de plus en plus riche en France. Donc, il y a des textes de Balux, il y a des textes d'autres personnes, et ça se circule. Et aussi, je fais une conférence. J'ai une conférence qui s'appelle Sans féminisme, pas de lutte efficace contre le fascisme. Et je fais une tournée, mais surtout en Italie, en Espagne, en France aussi, mais je fais une tournée, peut-être j'ai fait cette conférence 150 fois depuis deux ans. Et c'est beaucoup. Et je vois que il y a une sensibilité sur cette question. Pourquoi les fascistes ont très bien compris que le privé est politique? Pourquoi les fascistes ont très bien compris que le corps est politique? Le mariage est politique, la façon de vivre est politique, l'orgasme est politique, le clitoris est politique. Ils ont très bien compris. Pourquoi ils ont compris que l'homosexualité est politique? Et donc, pourquoi l'ordre social est politique? Et donc, et je crois que le féminisme, maintenant, surtout avec les nouvelles modes de mobilisation, parce qu'elles sont très créatives aussi, et très multiples, il n'y a pas un groupe. Les anciennes structures ne portent pas la mobilisation maintenant. Il y a une multiplicité de groupes passagers, fluides, mais ce mouvement, il a créé ces mécanismes très différents et dynamiques. Et maintenant, je me dis, Pnage, maintenant, je crois que ta période d'exil commence à se transformer. Je me vois comme une nomade. C'est-à-dire, les nomades, je connais bien en Turquie les nomades, donc ils font des chemins, ils retournent, ils vont, ils ont une trajectoire et ils passent des chemins, ils ont déjà passé. Et sur le chemin, ils ont leurs traces. Et le chemin devient leur maison. Et depuis quelques temps maintenant, je vis à Nice, je crée, j'écris à Nice aussi, mais pas que. J'écris dans les trains, j'écris dans les avions même, et dans les voitures. Mais je vais beaucoup en Italie, je vais beaucoup en Espagne, je vais beaucoup à Paris, à Lyon ou en Pays Basque. Je fais toujours aller-retour. Et maintenant, ces chemins, je maîtrise plus. Et c'est maîtriser ça. Et je dis que je crois que l'exil commence à partir. Donc je suis, voilà. Sauf que depuis un mois, donc j'ai vécu une grande déception amoureuse. Et là, quand j'ai vécu cette déception amoureuse, quand j'ai découvert que c'était pas comme j'imaginais les choses, j'ai compris que j'étais en exil. Ça, j'ai compris que j'étais fragile, parce que tu crées ton chez toi aussi dans la confiance. Mais depuis 2 jours, 3 jours, je dis qu'il fallait passer de cette épreuve pour vraiment dépasser l'exil, parce que c'était mon petit chez moi, cette histoire. Mais peut-être ça m'a empêché d'avoir une vraie relation avec l'espace. Je ne sais pas. Mais depuis quelques jours, quand j'ai passé cette épreuve, je me sens mieux avec l'espace que je maîtrise, je ne sais pas. Et comment créer dans tout cet tourbillon?
Alors justement, vous avez été enfermés, vous avez été torturés, mais malgré tout ça, cette expérience carcérale a complètement bouleversé votre vie, et notamment votre vie d'artiste. Vous avez écrit différemment, si j'ai bien compris. Vous avez appris aussi les réseaux de solidarité en prison. Concrètement, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie, à part la souffrance, évidemment?
Alors, moi, ce que je voulais dans la vie, quand j'étais petite, après avoir écrit ces lettres à mon père, je pense, j'ai commencé à écrire des romans. Mais les romans que j'ai écrits, je les garde toujours, et je les ai pas publiés, parce que on lit ces romans maintenant avec ma soeur pour rire, parce que c'est trop drôle. Mais c'est très naïf, etc. Mais mon seul idéal, c'était écrire des romans. Et après, j'ai commencé à écrire des contes. Ils sont publiés en Turquie, j'ai plein de livres de contes. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup de questions dans ma tête, beaucoup, beaucoup de questions. Donc je voulais toujours m'exprimer avec la littérature, à travers la littérature. Mais j'avais trop de questions, je ne pouvais pas continuer comme ça parce que j'avais besoin de les structurer. Donc j'ai fait la sociologie. Vraiment, j'ai couru à la faculté de sociologie, pas pour être sociologue, mais pour apprendre la sociologie, pour utiliser cet outil pour moi. Et ça m'a beaucoup servi. Et en même temps, je me suis trouvée dans les luttes sociales, parce que c'est pas possible dans des contextes comme ça. Imaginez-vous, vous pouvez imaginer peut-être à l'époque de l'occupation. Vous pouvez pas dire que moi je suis artiste, je ne peux pas sauver les juifs. Moi, je fais que les créations. Là, il y a des juifs et qui veulent. Il faut faire quelque chose. Donc, vous n'êtes pas que c'est pas une identité. Et création, c'est une capacité de d'expression. Mais cette capacité d'expression, c'est pas une identité. Ça ne vous empêche pas de faire d'autres choses. Donc, dans le contexte où j'ai grandi, c'était très normal que on peut être en même temps artiste, on peut en même temps militant, on peut en même temps être sociologue. Tout c'est en même temps. Parce que la personne, l'individu, il est complexe. Il n'a pas seulement, on ne peut pas être un champ de maïs seulement. On a plus, une personne est un jardin. Donc vous êtes tout, vous êtes un jardin. Mais juste avant la prison, j'écrivais plutôt la littérature et la sociologie à l'université. Mais quand vous vous engagez à toutes ces luttes, vous commencez, il y a des urgences tout le temps, et vous commencez à écrire des communiqués, vous écrivez plein d'autres choses. Et quand on m'a mis en prison, je me suis dit, Penage, il faut que tu... Comme je vous ai raconté tout à l'heure que... après la torture, je me suis dit, ils ne vont pas me déterminer qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai dit qu'il faut que tu recommences à écrire la poésie. Il faut que tu recommences la poésie ou des textes poétiques. Et il y avait une chose, quand ils étaient en train de me torturer, ils avaient confisqué tous mes documents, tout ce que j'avais. Et ils avaient trouvé mon journal intime, où je parle des choses très intimes aussi, mais assez poétiques. Ce n'était pas un journal intime que j'écrivais, c'était vraiment, je travaillais sur ce journal. Et ils lisaient avec une voix, en rigolant, etc. Et j'ai dit, quand on m'a mis après en prison, j'ai dit, je n'arriverai pas à écrire. Parce que je n'arrivais pas à écrire. C'est très difficile d'écrire, de parler de ton intime. Et c'est la lutte que j'ai faite avec moi pour dire qu'ils ne vont pas me déterminer. J'ai recommencé à écrire. Et mes amis... Et d'abord, je ne pouvais pas utiliser mes doigts. Je ne pouvais pas utiliser mes bras. Donc, à un moment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait des vieilles femmes kurdes qui étaient un peu sorcières, qui m'ont donné encore la vie à mes bras. Et après, elles m'ont fait, avec les draps, elles m'ont fait une chambre entre les lits superposés. Et là, je pouvais travailler la nuit avec une petite lumière. Et je me suis mis à écrire. Et j'écrivais beaucoup. Sauf que tout ce que j'ai écrit était confisqué encore une fois 2 ans après, juste avant de sortir de la prison. Parce que figurez-vous que je vous ai dit que j'avais de la chance. J'avais de la chance en prison aussi. Parce que à mon époque, les prisons étaient des grands dortoirs. On était tout le monde ensemble. Même on voyait les garçons, les hommes dans les journées. Pas dans les soirs, mais... Et donc, vous voyez plein de monde, vous discutez. J'ai appris le kurde, j'ai appris des danses. Il y avait beaucoup d'interactions là-bas. Et c'est grâce à ça que j'ai pu utiliser mes bras. Parce qu'il y avait des plein de compétences de plusieurs personnes. Ils ont compris que les prisons sont devenues très très dangereuses. On disait que les prisons sont des universités de résistance, etc. Et moi, j'ai vécu 2 ans et demi dans cette université. Et après, ils ont construit, ils ont décidé de européaniser à partir des prisons, devenir européen à partir des prisons. Donc, ils ont construit des prisons où il y a des cellules. Donc parce qu'ils ont compris que ces mouvements sont devenus très dangereux. Quand j'étais en prison, il y avait à peu près 50 000, 48 000 prisonniers politiques. Donc c'était beaucoup. Et on était tous ensemble. Et donc on a fait des grèves de faim pour résister de passer à d'autres prisons. À la fin, ils ont fait une opération à toutes les prisons. Et ils ont tué à peu près 800 personnes, les prisonniers. Et dans ma prison, autour de moi, ils ont tué 38 amis. Ils sont morts en brûlant par les feux. Et ils nous ont, juste avant de nous amener à la prison, ils nous ont amenés à une autre prison de passage. C'est là que j'ai été libérée. Mon procès a décidé de me libérer. Dans ce cas-là, et donc il y avait un moment donné qu'il fallait quitter tout de suite le dortoir. Donc ils ont dit, dans 2 minutes, on doit sortir. Et les femmes kurdes, j'étais avec beaucoup de kurdes, et elles avaient l'habitude de sortir très vite, et elles mettaient leurs draps, leurs culottes, tout ça. Et moi, j'ai couru à cette petite chambre de draps, j'ai pris tous les documents que j'ai écrits, et après on est passé à l'autre côté. Et après, ils ont touché à rien. Ils ont pris que mon sac. J'avais fait avec le sac, avec le drap, et j'avais mis dedans. Ils ont confisqué tout ce que j'ai écrit depuis 2 ans et demi. Toutes les choses. Et je voulais envoyer dehors ça avec mes avocats, etc. Mais je reportais toujours, comme je ne savais pas quand je vais être libérée. Après, ils nous ont mis dans une petite une salle, je ne sais pas combien, de 10 mètres carrés. On était plus que 150 personnes. Et là, on a attendu 4 jours sans sortir. Il y avait une petite toilette. Moi, je pleurais beaucoup parce que j'avais vu des gens qui étaient brûlés. Et j'avais même honte de demander pourquoi vous avez donné à tout le monde leur sac, mais vous ne m'avez pas donné mon sac. Et parce que c'était un peu bizarre, parce que les gens étaient en train de mourir et ou étaient morts. Et cet ami, il a sorti une cahier. Il y a une amie qui s'est approchée à moi. Et elle m'a dit, Pınar, elle s'appelle Burcu. Pınar, tu sais, sur ton lit, c'est pas posé, il y avait un cahier. Et je l'ai pris et a mis dans mon ventre, sur mes vêtements. Elle m'a donné. Et c'était le dernier livre que j'étais en train d'écrire. Et elle m'a regardé parce qu'elle savait que j'étais en train d'écrire ça. Elle m'a dit que maintenant, il faut que tu t'assoies. Et je faisais le grève de faim, j'étais 25e jour. Donc depuis 25 jours, je n'avais rien mangé, juste bu de l'eau. Et j'étais très, très affaiblie. Et elle m'a dit, maintenant, il faut que... Mais je pleurais aussi, mais je n'essayais de ne pas pleurer parce qu'il ne faut pas pleurer devant tout le monde, parce que tout le monde a une psychologie très, très mal. Il faut rester bien. Et elle m'a dit, il faut que tu écrives. Et là, il y avait des armes, des bruits, des cris partout, partout autour de nous. Et j'ai commencé à écrire le préface de ce livre. Je suis en train d'écrire dans les prisons, etc. Ce livre est publié après. C'est pas traduit encore en français. Après, j'ai écrit une autre préface quand j'étais dehors. Et j'ai pu sortir ce livre de la prison. Parce qu'après, ils nous ont amené à une autre prison. À ce temps-là, le tribunal a vu les experts, ils ont dit que c'est pas une bombe, tout ça, tout ça. Et on a vu dans la télévision que Penaselek va être libéré dans 10 minutes. Il y avait un milieu de personnes devant les prisons qui m'attendaient. Et tout de suite, j'ai mis, comme cet ami Bouljou, qui avait mis le cahier sur son ventre, j'ai fait la même chose. Et comme il y avait du monde, et c'était trop rapide, et je suis sortie, personne ne me fuyait. Donc j'ai sorti ce livre dehors. Mais là, j'ai compris que écrire, c'est pas l'unique chose que je fais dans la vie. Mais je ne peux pas vivre sans écrire. Je ne peux pas vivre sans créer. Et la création, ça fait partie de toute cette vie, toute cette dynamique qui se nourrit de ça et qui nourrit ça aussi. Et là, devant tout le monde, j'ai donné une promesse que je vais essayer d'être plus active qu'avant pour plus écrire, de ne pas être déterminée, de ne pas être dans le rang, disons, de ne pas être rhinocéros, même de ne pas permettre qu'une organe de rhinocéros se forme dans mon corps. Et là, je crois que mon écriture et mon militantisme et ma vie amoureuse, ma vie, et c'est devenu plus riche jusqu'en 2009. Donc, j'ai vécu encore 6 ans en Turquie. Et c'est une période très, très riche. Et j'ai... Mais, je n'avais pas trouvé le temps d'écrire mon roman. C'est-à-dire, j'ai écrit plein de nouvelles, des poésies, des contes, des choses, des essais, des trucs politiques. Mais mon roman, je l'avais écrit dans ma tête. Mes personnages étaient déjà créés, mais je n'avais pas écrit. Après, il y a eu, donc en 2009, il y avait eu la décision du tribunal et mes avocats m'ont dit « tu dois partir demain ». Et c'était très traumatique et je suis partie de Turquie du jour au lendemain avec un petit sac, sans rien amener avec moi. Mais la ville avait voyagé dans mon corps, dans mon esprit. Et c'est là que... j'ai compris, donc j'ai senti que je vais devenir folle parce que c'était très traumatique. J'étais très heureuse, je faisais plein de choses et tu t'adaptes à des contextes. Même si c'est quand tu vois de loin, tu dis comment font ces gens-là là-bas. Mais non, c'était très créative. Nous avions une revue féministe de, je ne sais pas, de 70 pages et chaque numéro, on le vendait 5000 exemplaires. Il y avait des discours de Hannah Arendt, c'était très philosophique, mais tout le monde achetait. Donc c'était aussi une effervescence cognitive aussi. C'était pas seulement un militantisme. Donc je dis que je vais m'ennuyer beaucoup aussi. Donc au début, j'étais en Allemagne, j'étais à Berlin, et je dis qu'est-ce que je dois faire, comment je peux continuer. Et là, j'ai compris que je suis devenue très faible. Je ne comprenais pas cette faiblesse. Et là, j'ai décidé de faire ce que je veux, vraiment. C'est une période très, très riche. Et j'ai... Mais, je n'avais pas trouvé le temps d'écrire mon roman. C'est-à-dire, j'ai écrit plein de nouvelles, des poésies, des contes, des choses, des essais, des trucs politiques. Mais mon roman, je l'avais écrit dans ma tête, mais pas cap pour moi. C'était vraiment une échelle, un changement d'échelle. Je suis revenue, vraiment après avoir écrit ce livre, j'ai dit que maintenant je suis là. Et Istanbul a parlé, s'est exprimé. Et après, j'ai continué à mon chemin, disons, de l'exil après nomade, etc., etc. Mais vous savez, c'est aussi... l'exil continue parce que vous n'avez pas assez de repères. Vous ne savez pas le monde d'édition, vous ne savez pas le monde, le marché de livres. Parce que en Turquie, tout le monde me connaissait, je connaissais tout le monde. Donc j'écrivais quelque chose, je connaissais avec qui publier, je connaissais toute leur histoire, on était des potes, des amis. On... Et là, c'est pas la même chose. Et tout se passe à Paris, où tout se passe dans les milieux déjà directement construits. Et quand mes livres étaient publiés, c'est les éditeurs qui m'ont trouvé. C'est pas moi qui les ai cherchés à travers mes maisons d'édition en Turquie. Donc, quand je suis venue en France, c'était très facile. Je suis venue en France pour vous dire une petite chose. D'abord, j'étais à Berlin parce que je croyais que mon exil allait durer très peu. Mais quand j'ai compris que ça va durer très longtemps, je suis venue en France parce que je parlais français. Donc, je voulais vraiment vivre ici. Et, c'est-à-dire, pas être invitée, participer à la vie. Et parce que je dis que je fais partie de ce monde, donc où je dois faire partie du monde, de l'espace où je vis, je ne veux pas être invitée et je ne veux pas parler toujours de la même chose. Je ne veux pas vivre dans le passé. Et donc je suis venue en France. Et quand mes livres sont publiés, j'ai trouvé les mouvements que je connaissais, j'ai trouvé plein de milieux et je pouvais directement parler et directement faire des choses ensemble, j'étais très contente. Mais avec le temps, votre écriture se transforme parce que vous avez d'autres interactions avec un autre espace. Et vous entrez dans les villes, vous connaissez, vous touchez à des corps d'autres personnes, vous touchez à des pierres, vous touchez... vous avez d'autres liens. Donc l'espace, le nouvel espace devient vous aussi. Et vous laissez vos traces à cet nouvel espace. Donc, cet espace qui est dans vous veut parler, veut s'exprimer. Donc, j'ai écrit mon dernier roman, Les fourmis fêtardes, je ne sais pas comment ça va se faire. Et en écrivant ce roman, l'année dernière, j'ai vécu une expérience assez forte. Et parce que mon éditrice m'a dit « tu ne peux pas écrire ce roman ». J'ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que ça se passe en France. Donc si ça se passe en France, il faut que ça parle de l'exil. Parce que tu es une exilée, tu es une Turque. Et les Français ne vont pas aimer si tu écris sur eux. » J'ai dit « N'importe quoi, moi je ne suis pas condamnée à perpétuité d'écrire sur le même sujet. » Elle a dit « Oui, tu as raison, mais le marché du livre n'accepte pas ça. » J'ai dit « Moi, j'ai pas accepté ce que demandait l'État turc, je ne veux pas accepter le marché du livre, je m'en fous. » Et c'est là, donc on a rompu, et c'est là que j'ai réfléchi. Il faut rester toujours dans la poésie, je me suis dit. Il faut rester toujours dans le conte. Il ne faut pas perdre la magie dans la vie. Et quelquefois, c'est difficile, mais si tu t'adaptes à ce système, tu vas écrire, mais ce que tu écris ne sera pas magique, ne viendrait pas de ton ventre, ne viendrait pas de tes cellules. Donc il faut que tu te laisses, même si tu te marginalises, parce qu'elle me dit, tu vas être très marginal, tu vas voir, tu choisis toujours des chemins qui vont te marginaliser, les gens qui sont aujourd'hui avec toi ne vont t'écouter, tout ça. Et donc, j'ai décidé de faire ce que je veux. Donc là, je dis que la création, même dans un autre espace, peut être possible quand vous décidez de faire ce que vous voulez. Et si je suis arrivée à ce point-là, je crois que j'ai des ressources maintenant de pouvoir dire ça. Et maintenant, j'ai trouvé d'autres maisons d'édition. Je peux, c'est plus difficile maintenant, mais je vais essayer de continuer cette poésie dans cet espace qui est le mien maintenant.
Ce sera ma dernière question. Vous avez évoqué pendant l'entretien, et dans votre livre vous l'évoquez souvent aussi, le processus actuel de rhinocérisation. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on sait que ça vient de UNESCO, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre monde actuel?
J'avais compris quand j'étais petite, comme je vous ai raconté, que rhinocérisation, c'est quelque chose de s'adapter à la domination et s'adapter. Mais il y a mille façons de s'adapter. Et je crois qu'aujourd'hui, et hier et de, aujourd'hui et hier, nous pouvons citer mille façons de s'adapter, mais s'adapter aux logiques du marché, s'adapter aux logiques de domination, qui ne nous paraît pas très très répressive. Quelquefois, quand c'est plus répressive, c'est plus facile de dire non, parce que c'est évident. Mais quelquefois, quand c'est pas répressive, quand vous dites que c'est pas très grave, je peux faire quand même quelque chose avec mon poids, etc. Mais nous habituons à des choses très très graves. À mon avis, c'est ça qui est très important. Nous habituons à marcher devant nous, il y avait des personnes dans les rues. Même moi, on tourne la tête. On habitue des choses. Par exemple, dans un petit village, si on voit une personne dans les rues, on va l'aider. Mais dans ce contexte, on habitue à plusieurs choses. On habitue à Nice, ils vont faire... moi, je disais que je vais faire une campagne contre les gardières pour changer le nom de gardière. Parce qu'en tant que femme, moi, je ne veux pas ce parti de l'ordre. Je veux bien que ce soit Charlotte Salomon qui sera le garde de Charlotte Salomon. Donc, je voulais... J'imaginais une campagne, de faire une campagne comme ça. Tout d'un coup, je vois qu'il y a l'arrêt de tram de Napoléon Ier. Et on s'adapte. Comment ça peut être possible? Il y a plein de personnes géniales. Et Jacques Médecin ou Napoléon Ier. On nous impose, on dit, on fait une pétition, on dit une fois non, mais on s'habitue à un moment donné. Donc je me questionne comment faire pour ne pas s'habituer, et peut-être créer des situations, comme disaient les situationnistes beaucoup, je ne sais pas, mais ce que je réfléchis beaucoup. Donc l'art est très important aussi dans cela, parce que ça sort du circuit, l'art, parce que tu crées et tu étonnes, tu montres quelque chose qui n'est pas visible, que les autres n'attendent pas. Quand j'étais en prison, il y avait un vieux monsieur, un Arménien qui tirait les dans l'église, qui tirait le...
L'alarme ?
Non.
La cloche ?
La cloche. Comment ça s'appelle en français? Je sais pas. Son métier était ça. Il tirait les cloches. Il vivait là-bas. Et il est venu me dire un jour, Poudard, tu sais, ces dictateurs, ils savent pas écrire des poèmes. Et leur poésie n'est pas bon, n'est pas jolie. Au moins, nous pouvons le faire. Et donc, je crois qu'il faut le garder précieusement, cette chose que nous avons, ça. Et parce que nous pouvons le faire avec une grande liberté. C'est la liberté qui crée, qui rend possible cette création. Mais quand tu te mets dans des cases, tu n'arrives pas à vraiment créer. Donc maintenant, je me demande que faire, parce qu'il y a une grande écart de pouvoir. Nous ne sommes pas très forts. Eux, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de mécanismes de communication. Ils peuvent parler très haute voix et notre voix est très faible. Donc, ce que je me demande, mais je ne sais pas peut-être si c'est la seule voie, mais moi, au moins, pour lutter contre c'est les noms des rues et les noms des arrêts de tram que je dois dire, utiliser les mots, de ces mots que je ne veux pas. Je dois créer une autre chose. Je dois peut-être en même temps organiser des grandes manifestations, manifestations, faire des procès, peut-être. Mais ça ne suffit pas pour exprimer ma proposition, pour exprimer pourquoi je ne veux pas ça. Il faut que j'utilise pour exprimer bien cette richesse qui me fait dire non. J'ai besoin de l'art aussi.